à toutes et à tous, bienvenue dans cette interview exclusive sur santénews.info. 6 octobre, l'humanité célèbre la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Lancée en 2012 en Australie, cette journée a pour but d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie afin de changer le regard porté sur les personnes touchées, de développer des projets, de trouver des financements pour la recherche. Tout justement, à l'occasion de cette célébration, nous sommes en ligne avec le docteur Guillaume Kabamba, il est généraliste à l'hôpital de la Rive. Bonjour. L'humanité célèbre ce 6 octobre, la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Pensez-vous que c'est important de s'arrêter un moment et de parler de cette maladie?
Oui, je pense que c'est vraiment important de parler de la paralysie cérébrale parce que quand on voit le trouble que c'est la cause au niveau de famille, dans la prise en charge familiale et dans la prise en charge sociétale, donc c'est vraiment important d'en parler.
En des termes aussi simples, comment vous définissez la paralysie cérébrale?
En définition, on peut dire que c'est un ensemble qui désigne un groupe de troubles affectant le mouvement et le mouvement d'une personne depuis sa naissance. Ou soit encore, je peux encore ajouter, c'est comme un handicap. C'est un handicap qui s'aggrave généralement avec le temps.
Existe-t-il des causes directes ou indirectes à cette maladie?
Les causes de cette maladie sont multiples, mais généralement, les causes sont des causes qu'on peut éviter, mais qui généralement arrivent. Et parmi les causes, on trouve, par exemple, la prématurité chez les enfants, un enfant qui est né prématuré, chez un enfant prématuré. Deuxièmement, il y a aussi lors des accouchements difficiles et que l'enfant qui est né peut développer ses troubles et d'autres conséquences, d'autres causes aussi. Mais la plupart, ça se résume sur les accouchements, autour de l'accouchement. Lorsque nous sommes devant des accouchements difficiles et que la technique n'a pas été bien appliquée, cela peut entraîner ce trouble cérébral chez l'enfant. Un enfant qui peut naître avec un asphyxie cérébrale et que la prise en charge n'a pas été la récupération rapidement. Ça peut entraîner certaines lésions cérébrales et qui peuvent entraîner au développement de cette paralysie cérébrale.
Quelles sont les statistiques des personnes atteintes de la paralysie cérébrale en République démocratique du Congo?
Bon, je parlais de statistiques tellement que ici chez nous, on n'a pas cette habitude-là de publier et de mettre à jour les statistiques pour donner une statistique précise, ça sera très, très difficile. Mais nous sommes autour de 5% de 5% de paralysie cérébrale. Autour de 5%, 3 à 5% de paralysie cérébrale.
Alors, comment s'est fait la prise en charge de cette maladie ici au pays?
Bon, la prise en charge, elle s'est faite dans un ensemble. Premièrement, il y a la prise en charge du côté de l'enfant. Et puis, deuxièmement, la prise en charge et aussi l'éducation de la famille. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à récupérer et à réadapter socialement un enfant qui a développé une paralysie cérébrale. Et cela, ça s'est fait comment? Premièrement, nous avons les mesures de physiothérapie, communément qu'on peut dire aussi de mesures de kiné, une kiné des réadaptations qui peuvent être faites. Et puis, deuxièmement, il y a du côté de la famille, essayer d'expliquer à la famille comment aider l'enfant à récupérer d'une manière autonome sa mobilité, voire même sa langue papée. Ces troubles peuvent atteindre même le langage de l'enfant. Et même le quotient intellectuel de l'enfant peut être perturbé. voyez. Et c'est dans cet ensemble-là que vous formez les parents, vous éduquez les parents dans la prise en charge, dans l'accompagnement, dans le mesure d'accompagnement des récupérants, d'adaptation de l'enfant à la société. Et il y a beaucoup de mesures richesses. C'est un enfant qui est paralysé, qui présente des limitations du mouvement. Je vais expliquer aux parents comment faire l'hygiène de l'enfant et comment expliquer aux parents comment comprendre le besoin de l'enfant à ce moment-là. Parce que c'est quelqu'un qui, deux fois, qui développe de troubles de langage, c'est pas parler. Donc, comment est-ce que le parent peut comprendre que l'enfant a besoin soit de manger, l'enfant a besoin soit de dormir. Et dans cet ensemble-là, on peut aider la famille à bien prendre en charge et récupérer et remettre l'enfant dans la société, amener une bonne vie dans la société.
Alors, quelle attitude doit prendre une femme enceinte pour éviter de donner naissance à un enfant prématuré?
L'attitude, elle est simple. Nous avons des consultations prénatales. Dans les consultations prénatales, il y a d'abord le premier trimestre. Quelle sont? Et quelle est l'importance de la consultation prénatale au premier trimestre? Les médecins expliquent cette importance-là. Il y a d'abord le diagnostic de la grossesse et puis deuxièmement, voir si l'enfant ne présente pas quelques malformations embryonnaires. Et nous avons aussi les consultations. Le deuxième consultation qui survient en deuxième trimestre, les consultations de deuxième trimestre, c'est toujours le médecin surveille l'évolution du fœtus. S'il y a déjà de présence de certaines séquelles ou certaines malformations, le médecin aura une attitude à prendre. Et il y a aussi les consultations, et il y a aussi au troisième trimestre. Et tout ce trimestre-là, la femme doit respecter ses consultations. Deuxièmement, après cela, il y a aussi des fois, lors des consultations, nous demandons aux femmes de réaliser des échographies. Et vous savez, ici chez nous, la plupart des femmes, pour faire des échographies, c'est tout un problème. Là, je peux juste demander au pouvoir public, il serait mieux si des échographies, on pouvait mettre à la disposition des cliniques, de centres de maternité, des échographies gratuites pour les femmes qui viennent chez elles. Ça sera très, très important et aidera aussi, le médecin, ça nous aidera aussi à limiter aussi toutes ces conséquences-là.
Merci docteur Guillaume Kabamba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes généraliste à l'hôpital de la Rive. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.